17h-18h. FM 93.
Et c'est le coup gagnant.
Je sais tes matchs. Bianca Donescu, championne à New York, championne Grand Chelem.
Wow.
En qualif l'année dernière, ici à New York, on ne la connaissait même.
Elle écrit l'histoire. Elle tient bon.
Elle pourra continuer de nous dire, c'est irréel, tellement irréel. Sylvain Bruno, champion Grand Chelem.
Oui, faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier, c'est les paroles d'Hélène Pelletier et Yvan Ponton dans la description sur RDS de cette victoire de Bianca Andreescu. Et vous savez quoi, faut pas l'oublier. Mon prochain invité sait très bien de quoi on parle parce que Sylvain Bruno, c'est l'entraîneur de Bianca Andreescu. Et mon prochain invité est un entraîneur de tennis professionnel qui a fait le tour du monde dans les dernières années avec différentes joueuses sur le circuit de la WTA. C'est un gars qui vit à Québec maintenant, qui s'appelle Pierre-Luc Tessier, à qui on parle quelques fois par année dans l'avant-match. Salut Pierre-Luc!
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Évidemment, ton sport était sous les projecteurs en fin de semaine. Est-ce que plus Bianca avançait dans le tournoi, plus tu pensais qu'elle pouvait gagner le tournoi?
Ben, écoute, c'était... comme on avait parlé avant le tournoi, c'était une question de physique dans son cas, voir si le corps allait tenir. Puis plus le tournoi avançait, comme tu dis, plus elle jouait bien et plus le corps semblait tenir la route et plus que bien en plus de ça. Donc oui, on la voyait loin déjà. Mais de l'avoir gagné le tournoi, là, c'était vraiment là, quelque chose d'incroyable à voir, à écouter à la vision. Là.
Est-ce qu'elle a gagné le tournoi ou Serena l'a perdu?
Écoute, il y a des gens qui pourraient dire... je te dirais que les deux sont arrivés. Serena n'a pas été la Serena qu'on connaît en général, mais Bianca a vraiment joué un match absolument extraordinaire. Je pourrais dire qu'une des grandes faiblesses de Serena, c'est quand elle se fait attaquer constamment. Un petit peu plus de misère en course à bien contre-attaquer. Puis je pense qu'Andreescu et Bianca, en fait, on a très bien fait ça, de prendre l'avantage des points, et ce, très rapidement, pour pas donner de chance à Serena de vraiment installer son gros jeu de fond de terrain. Là.
OK. Évidemment, les réseaux sociaux, il y a du bon puis il y a du mauvais. Dans oui. Ce cas-ci, je vais te rendre hommage parce que on a un ami en commun qui a posté sur la finale entre Bianca et Serena et tu t'as répondu à sa question. Lui demandait qu'est-ce que ça prend pour battre Serena Williams en finale à Flushing Meadows. Et toi, t'as dit pour Bianca, c'est pas compliqué. Ça prend un bon jeu de jambes, une bonne première balle de service et une lourdeur de balle semblable à celle de Serena. La recette était là et Bianca l'a bien façonné?
Écoute, tous les joueuses qui ont réussi à battre Serena dans les dernières années, c'est-à-dire des très grandes et très bonnes frappeuses et des très bonnes joueuses, des joueuses qui bougent beaucoup. On a pensé à Azarenka en Australie il y a quelques années. Dans le temps, il y a sa sœur qui bouge bien, qui frappe fort aussi, donc Venus aussi. Donc, ces joueuses-là qui ont une vitesse de balle peuvent rivaliser avec Serena. C'est sûr que Serena, avec elle-même sa lourdeur de frappe, il faut être capable d'être derrière chaque balle pour pouvoir t'installer et frapper. Bianca a ces atouts-là, Bianca a ce jeu-là, un jeu de jambes extraordinaire. C'est une athlète absolument, là, pour l'avoir vu s'entraîner des fois physiquement dans certains gymnases à Toronto, même à Montréal, des fois, c'est hallucinant ce qu'il est capable de faire physiquement, cette joueuse-là. Puis ça prend ça pour battre Serena. Il faut que physiquement, tu sois A1, puis Bianca là, est A1 physiquement. On l'a vu pendant le tournoi, puis au niveau lourdeur de balle, là, je pense qu'elle frappe tôt, puis elle frappe lourd, elle frappe vite. Et ça, c'est des qualités que ça prend pour battre Serena, puis elle a tout appliqué ça dans son match. Une petite passe un peu plus difficile au deuxième set, mais sinon, le reste était vraiment très, très bien effectué de sa part. Là.
OK. Pierre-Luc, évidemment, tu vas me permettre une comparaison avec le hockey, parce qu'on est beaucoup plus familier avec le hockey qu'avec le tennis.
Oui.
Au hockey, oui. Simon Gagné, à l'époque où il jouait novice, on pensait pas qu'il allait gagner la Coupe Stanley avec les Kings puis qu'il allait jouer aussi longtemps dans la Ligue nationale, mais il était dominant à chaque niveau où il a joué. Dans d'autres cas, il y a un joueur qui arrive dans la Ligue nationale, mais ça n'a jamais été le meilleur, mais il a tout le temps été dans la moyenne, il a travaillé fort. Finalement, il a une super carrière. Je pense entre autres à Patrice Bergeron, qui a jamais arrêté de travailler, puis ça fait 12 ans qu'il va faire une école de patinage à Trois-Rivières avec Julie Robitaille. Puis lui, il voulait être dans les meilleurs, mais c'était peut-être pas le meilleur joueur, puis oui, de sa génération. Au tennis, toi, tu les as vus, les jeunes. T'es as vus à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Est-ce que Bianca, c'était évident qu'elle allait devenir une championne ou a fallu qu'elle travaille un peu plus fort?
Je te dirais que très, très jeune, elle avait été déjà repérée par Tennis Canada, c'est sûr et certain. Elle avait un certain... elle avait une hargne que d'autres joueuses n'avaient pas. Elle avait une espèce de désir de vouloir gagner à tout prix. on jouait des points d'entraînement avec les Canadiens 10 ans, 12 ans et moins, puis elle voulait toujours gagner. Puis en gagnant les petits as à 14 ans, ça, c'était vraiment un signe que là, les petits as, c'est un des plus gros, c'est le plus gros tournoi au monde chez les 14 ans et moins que ça se passe en France. Et quand tu fais la finale ou que tu gagnes ce tournoi-là, ben t'es dans les mêmes lignées que les Nadal, les Gaël Monfils et tout ça. Donc, c'est vraiment un exploit exceptionnel. Puis très jeune, elle a gagné beaucoup. Donc, elle s'enlignait vers ça, c'est sûr et certain. De là à dire qu'elle a gagné un grand chelem aussi tôt que ça dans sa carrière, peut-être pas.
Okay.
Parce qu'on s'entend qu'elle a eu une année extraordinaire. Elle est passée de 150 en début d'année. Elle faisait des qualifications en Australie. Elle a gagné en Nouvelle-Zélande pour se rendre après ça jusqu'à gagner le US Open en fin d'année. Est-ce qu'elle devait gagner cette année un grand chelem? Non. Elle aurait gagné un éventuellement, mais si tôt que ça, c'est un peu inattendu, mais c'est une très bonne nouvelle pour elle. Mais non, c'est sûr que Tennis Canada et les gens, et même ceux qui connaissent le tennis un peu, la regardaient jouer, la regardaient se développer, puis c'est toute qu'une athlète, mais c'est surtout une combattante sur le terrain absolument extraordinaire. Elle sort des situations impossibles, puis elle réussit à passer au travers mentalement très, 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 très solide. Donc, je pense que c'est une question de temps qu'on en gagne un, puis ben, finalement, à 19 ans, on en gagne un, qui est un exploit exceptionnel. Là.
OK. En 2014, le plus haut échelon qui a atteint Eugénie Bouchard au classement de la WTA, c'est cinquième. En date d'aujourd'hui, ouais. Nouveau classement de la WTA, Bianca Andreescu est cinquième. Comment tu peux me dire que les trois prochaines années vont aller mieux pour Bianca que pour Eugénie?
Écoute, je te dirais qu'il y a le fameux, ce qu'on appelle, en anglais, on dit le sophomore year, la deuxième année. Cette année, Bianca, elle a joué une année où est-ce qu'elle avait aucune attente. C'est-à-dire que elle jouait un peu librement, elle avait un classement autour de 150-160 au monde. Dans ce temps-là, tout ce que tu peux faire, c'est gagner. Tu peux juste monter dans le fond dans le classement. Est-ce que Bianca va avoir des années difficiles? Je te dirais que je pense pas. Autant par son entourage qui est un petit peu plus stable, un petit peu plus solide, autant par elle-même en tant que personne. Je sais pas si tu as vu sa réaction après la victoire au Grand Chelem, mais c'était une réaction très humble et très, très pas conservatrice, qui était contente d'avoir gagné, mais c'était assez calme comme pour une joueuse gagner un Grand Chelem. Ça prouve juste, dans le fond, qu'elle n'est pas satisfaite de juste un et avoir voulu en avoir d'autres. Et c'est une fille qui travaille tellement fort. Je vois pas pourquoi ça arrêterait demain matin. Je pense qu'elle en a gagné un, puis elle veut juste en gagner d'autres, tout simplement. Là. Fait que oui. Moi, je pense qu'elle va avoir peut-être une deuxième année un petit peu plus difficile, parce que là, peut-être que se maintenir à 5 au monde, on s'attend que là, si elle veut faire mieux, qu'elle en gagne 2 grands chelems dans la même année, je trouve qu'il va être très dur à faire.
Oui, je comprends.
Mais se maintenir, peut-être descendre un petit peu, mais après ça, pour repartir, mais elle va rester en haut, d'après moi, là, sans problème.
OK. Je faisais référence dans mon intro avec toi à Sylvain Bruneau qui a reçu le trophée. Moi, j'ai appris en fin de semaine qu'il était avec Tennis Canada depuis 1988. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand Eugénie s'est mis à bien jouer parce qu'il était dans son entourage. C'est le fun de voir qu'on récompense les entraîneurs aussi. Est-ce que la suite des choses, c'est Sylvain Bruneau qui en a beaucoup à faire pour ça ou c'est l'entourage en général pour Bianca? Parce que lui nous disait vendredi matin dans l'émission de Sylvain Bouchard, c'est pas elle qui va changer sa vie maintenant, c'est les gens autour qui vont être influencés par sa progression.
Écoute, effectivement, c'est sûr que Bianca, en fin de semaine, d'avoir gagné ce tournoi-là, ça change sa vie à 180 degrés complètement. Là, on vient de passer dans une autre stratosphère au niveau commandite, au niveau de demandes médiatiques, de demandes de toute entrevue, de tout ce que vous pouvez penser. C'est à son entourage de gérer les alentours pour qu'elle puisse se concentrer sur son tennis et uniquement son tennis. D'être bien entourée, d'avoir un bon agent, d'avoir un bon entourage d'entraîneurs. Je sais que Bianca, toute la saison au complet, elle a demandé d'avoir le même entourage autour d'elle. Ça veut dire Virginie Tremblay, qui était l'entraîneur physique, qui était là en Nouvelle-Zélande avec elle, a fait l'année avec elle au complet. Sylvain Bruneau a passé l'année avec elle. Ça a été le même partenaire de frappe ou les deux mêmes partenaires de frappe qui ont fait la saison avec elle au complet.
Okay.
Et ça, c'était à sa demande à elle. Donc, c'est elle qui veut s'entourer de toujours les mêmes personnes parce que c'est son confort et elle est bien. Mais aussi, elle est bien entourée. Donc, ces gens-là ont fait un travail extraordinaire. Sylvain, dans le fond, il est comme un peu un capitaine de bateau qui gère une équipe autour d'elle. Et puis lui, il a fait un job cette année absolument extraordinaire. En plus de gérer des blessures, il a géré le succès à Indian Wells. Il a géré, il faut qu'il gère le succès au US Open. C'est sûr que l'entourage a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour que cette joueuse-là reste vraiment concentrée à continuer à s'amuser, continuer à travailler fort, mais aussi continuer à gagner des matchs.
Pierre-Luc, en 40 secondes, est-ce que Serena Williams qui a perdu ses 4 dernières finales du Grand Chelem, est-ce que tu as trouvé samedi qu'elle avait été un peu mauvaise perdante?
Non, je pense pas. Je pense que des joueurs de ce niveau-là veulent toujours gagner et toujours gagner encore plus. On a vu Nadal le lendemain qui pleure après sa 19e, son 19e gain, qui pleure encore parce qu'il voit ses gains des 19 fois puis il est encore ému de ça. Ces joueurs-là veulent gagner à tout prix. Serena n'a pas été, je pense pas, mauvaise perdante. Elle est juste très, très déçue d'avoir perdu ce match-là.
Okay.
Parce qu'on s'entend qu'elle cherche son 24e Grand Chelem pour égaliser le record du monde. Là.
Exact. Margaret Court qui en a 24, Serena en a 23. Pierre-Luc,
exact.
Fort intéressant de t'entendre. Un gros merci d'avoir partagé ça avec nous ce soir.
Merci à toi, Dan Montoiré.
À bientôt. Pierre-Luc Tessier, entraîneur de tennis professionnel, à qui on parle quelquefois dans l'avant-match. Juste une petite note. Une note familiale. C'est rare que je parle de ma famille en nombre, mais il faut que je rende hommage à mon frère. Après le tournoi d'Indian Wells au mois de mars, mon frère a parié, Colin, c'est même pas lui le gambler de la famille en plus, il a parié 30$ sur une victoire de Bianca Andreescu au US Open. Là, j'ai dit, voyons, c'est quoi le rapport, US Open? Elle ne gagnera pas le US Open, elle vient de gagner Indian Wells, là. Calme-toi. Finalement, samedi, il m'a dit, tu sais, t'en souviens, la gageuse que j'avais pris au mois de mars? 30$ a donné 1020$. Ça prenait juste du flair. Je voulais quand même le souligner. Bravo à mon frère pour cette petite gageure sympathique. Et Will va nous donner à l'instant les réponses des auditeurs depuis le début de l'émission. Je vous dis, plus grand moment sportif de l'histoire du Canada, mais à quel rang, puis on met ça où, puis on jase jusqu'à quelle heure? Vous avez été plusieurs à répondre par texto.
Oui, puis je me rends compte, Dan, qu'il n'y a pas juste les Raptors ou même la victoire d'Andreescu. Là, dans les moments marquants au Canada du niveau sportif dans les dernières années, on en a eu des suggestions, des très bonnes. Joanie Rochette, à Vancouver, oui. En 2010, sa performance après le décès de sa mère, gagner la médaille de bronze. C'est incroyable quand même. Oui. Le rendez-vous 87, qui était ici au Colisée, Dan.
OK, deux matchs contre les Russes.
Oui, Mario Lemieux qui avait compté le but, suggestion. Okay. Les deux séries mondiales des Blue Jays au début des années 90.
Oui, 92 et 93.
Exact, deux consécutives. Oui. À Stade-ci, c'est encore les seules séries mondiales remportées par une formation canadienne.
Et particulièrement le circuit de Joe Carter dans une des deux. Ça, c'est un moment classique.
C'est arrivé, on l'a eu à plusieurs reprises, cette suggestion-là.
Okay, parfait.
Mike Weir au Masters en 2005, Dana, je pense.
Non, 2003.
Okay.
2003. La victoire de Mike Weir, me semble, c'est 2003.
Pas pire, hein, pour le fan de golf en toi. Content?
Ah, absolument. Bon sens, ouais. Ça a été un moment important de l'histoire du sport au Canada. L'auditeur a raison de le souligner.
Là, il a le droit encore de participer au Masters parce qu'il l'a déjà gagné.
Pour le restant de ses jours.
Ou sinon, c'est plus tough hein, pour les autres tournois.
Oui, c'est ça. Sinon, il se classerait pas, on va dire ça comme ça.
La victoire de Ben Johnson sur Carl Lewis, il faisait le parallèle, l'auditeur, entre la victoire d'un Canadien contre un Américain.
Ah, OK.
Et comme ça s'est produit samedi avec Andreescu sur Serena Williams.
Séoul en 88, mais ça a duré trois quarts d'heure, on a su finalement que ça passait pas.
Finalement, c'est ça, exact. La série du siècle de 1972,
classique. J'ai de la misère à comparer ça quand même, avec Bianca Andreescu. Sport d'équipe, sport individuel, tennis versus hockey.
Mais pour l'impact, politique derrière ça, je pense que ça vaut la peine de mentionner.
Oui, l'auditeur fait bien de le mettre. Là, dans l'ordre... si on était dans le bord sportif jusqu'à minuit et quart pour essayer de faire un classement, ça serait tough. Là.
Ouais, ça se peut qu'on soit là jusqu'à demain matin hein, pour en débattre. Il y a le championnat du monde de Formule 1 de Jacques Villeneuve en 97.
Oui.
Bien sûr, le Golden Goal de Sidney Crosby en 2010.
Absolument.
Alors, plusieurs suggestions, Dan, puis je me rends compte justement que ça en est passé des choses dans le sport canadien.
Parfait. Un gros merci aux auditeurs d'avoir participé à nos si grands noms.
Up with it again. He's on the ice with the Gimlet.
L'avant-match.
De retour après la pause.
Tu travailles sur la construction.